Aujourd'hui, dans les récits de Loire-Atlantique et de Vendée, un professeur d'histoire, mais qui est aussi écrivain, c'est Michel-Alexandre Gauthier. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes avec nous pour évoquer le dernier ouvrage que vous venez de faire paraître chez Geste Édition et qui s'intitule « Portrait de guerre, le pays de Ré à l'heure allemande ». En fait, il s'agit de nous raconter l'occupation dans le pays de Ré et ce que les hommes et les femmes à cette époque ont pu faire pour améliorer leurs conditions de vie qui n'étaient pas faciles. Alors, Michel-Alexandre Gauthier, vous êtes écrivain, c'est pas le premier bouquin que vous écrivez sur le sujet, hein ?
Eh bien, d'abord, je vous précise que je ne suis pas historien professionnel, mais simplement un passionné d'histoire. Et je suis né en Pays de Ré, au cœur du Marais du Boivre, 2 ans après la guerre.
Oui.
Donc, le premier livre que j'ai écrit sur la période, en fait, c'est un livre qui portait sur la guerre et la captivité de mon père. Je suis né en 1947, donc je suis un enfant du baby-boom, un de ses enfants, fils de prisonnier. Et donc, ce père, parti jeune paysan de Saint-Père-en-Ré, parti faire son service militaire en 1938 et revenant de captivité en 1945 au bout de 7 ans, ce qui n'est pas un cas unique, hein, bien entendu. Donc, j'ai d'abord écrit ce livre sur cette guerre et puis mon enquête s'est étendue à l'ensemble de la poche sud de Saint-Nazaire. Et depuis 6 ans, j'ai interrogé à peu près 300 témoins et recueilli donc de multiples récits de guerre qui allaient disparaître avec
Le
les témoins
temps, ben oui, bien
qui
sûr.
les avaient vécus. Voilà.
Alors, vous avez connu toutes les personnes que vous avez interrogées, qui vous ont raconté leurs souvenirs ou le souvenir qu'ils avaient d'une autre personne. Vous les avez connus personnellement, en fait, vous avez grandi avec eux autour de vous?
Pour certains, oui. Bien sûr, en particulier dans ma commune d'origine, Saint-Père-en-Ré. Mais bien entendu, j'ai élargi mon enquête à une zone beaucoup plus large. En fait, la poche de Saint-Nazaire s'étendait. Bon, c'était une zone quasi circulaire de 25 km de rayon. Et la partie sud de l'estuaire sur laquelle j'ai enquêté couvrait en fait 11 communes du pays de Ré, donc qui s'étalaient de la mer, de la pointe Saint-Gilda, en gros, jusqu'au marais de Vue.
Absolument. Alors, est-ce qu'on peut rappeler, Michel-Alexandre Gauthier, pour les plus jeunes, ce que c'était que la poche de Saint-Nazaire?
Ah oui, alors la poche de Saint-Nazaire, c'est vraiment une singularité historique sur laquelle bon, l'histoire officielle, à mon avis, ne s'est pas encore suffisamment penchée. Eh bien, il faut savoir que Nantes, par exemple, a été libérée le 12 août 1944. Hein, Paris, le 25 août. À partir du début février 1945, il n'y a plus un seul soldat allemand sur le sol français, hormis dans les poches de l'Atlantique. Il y en a 5, dont la nôtre, celle de Saint-Nazaire, qui est la plus importante, la plus peuplée. Donc sont enfermés dans cette zone environ 130 000 civils avec 30 000 soldats allemands.
Voilà, qui eux ne sont pas partis et résistent encore.
Ben, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de résistance à proprement parler, parce que pour résister, il faudrait des organisations de résistance, il faudrait des maquis, il faudrait des armes. Donc il n'est pas question de résister à une force armée allemande encore très importante et qui, elle, dispose de ses armes. Donc on ne résiste pas, mais on fait front avec tous les moyens dont on dispose. Et la résistance, si vous voulez, elle est extérieure, puisque autour de cette poche, on va envoyer environ 16 000 FFI qui vont contrôler les lignes et faire que cette poche devienne véritablement étanche.
Pourquoi ils ne sont pas partis, ces Allemands-là? Pourquoi sont-ils restés là?
Eh bien, en fait, ils ne sont pas partis parce qu'en fait, ils se sont trouvés enfermés dans cette zone et ils avaient la consigne par Hitler, aussi bien à Dunkerque, à Lorient, qu'à Saint-Nazaire, La Rochelle et Royan, qui étaient les 5 poches de l'Atlantique. Ils avaient la consigne de défendre ces zones jusqu'au dernier homme. C'était des ports en eau profonde. L'Allemagne croyait encore à la mise au point d'armes secrètes et le maintien de certaines troupes dans ces poches présentait un intérêt stratégique.
Donc avec vous, tout au long de ce récit de Loire-Atlantique et de Vendée, on va rentrer dans le vif du sujet et faire la connaissance de celles et ceux qui ont vécu cette époque-là. Le pont de la rivière Kouai pour évoquer l'époque de la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans la poche de Saint-Nazaire. Avec vous, Michel-Alexandre Gauthier.
Récit de Loire-Atlantique et de Vendée.
Un très bel ouvrage, fort consistant, signé Michel-Alexandre Gauthier, Portrait de guerre, le pays de Ray à l'heure allemande. Des témoignages que vous avez recueillis vous-même, Michel-Alexandre, et que vous teniez à recueillir. Il faut dire que vous êtes né juste après la guerre, en 47, et que tous ces gens-là, vous les avez connus.
Pour certains, je les ai connus dans mon enfance. Pour d'autres, je les ai découverts quand je sortais de chez un témoin. En général, c'était avec quatre ou cinq autres adresses. Tu devrais aller voir un tel, un tel, un tel. Et bon, j'ai rencontré des gens de tous les milieux, beaucoup de cultivateurs. On disait cultivateurs à l'époque, on disait pas paysans. Leurs femmes aussi, des enfants. J'ai même consacré un chapitre à la guerre vue par les enfants dans un ouvrage antérieur. Des professions alimentaires qui étaient très importantes à l'époque, des bouchers, des meuniers. Des gendarmes, des soldats des deux camps, y compris des soldats allemands, et puis évidemment des anciens prisonniers de guerre.
Alors, ce qui est émouvant dans votre ouvrage, c'est que c'est un peu comme si nous allions à la rencontre de ces personnes. Vous évoquez nommément ce résistant en galoche ou encore Pierre Lécuyer, le paysan de Frossé. Ce sont des gens qui vous ont ému et dont vous pourriez peut-être nous raconter une bribe de l'histoire.
Oui, eh bien, effectivement, bon, ce jeune résistant en galoche, Robert Guissot, il avait 13-14 ans au moment de cette fin de guerre. Bon, comme un enfant, il était très curieux. Les Allemands laissaient aller les enfants dans des endroits où les adultes n'avaient pas le droit d'aller. Donc, ils voyaient des choses que les adultes ne voyaient pas. Donc, ils ont joué un rôle pendant cette période. Ils pouvaient même donner des renseignements très intéressants au FFI. Celui-ci, il a fait plus.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Eh bien, avec l'aide d'un charpentier voisin qui vient visiter son père, on profite du fait que les Allemands sont partis en patrouille ou dans un combat sur la prairie de tenue et le gamin inspecte les alentours et il se dit, il n'y a personne, on peut y aller. Et avec ce charpentier, on va balancer dans le puits des munitions, des caisses d'obus, des grenades allemandes.
Voilà, pour pas qu'ils s'en servent, tout simplement.
Voilà.
Alors ça, c'est quand même un acte de résistance, ça.
Eh bien oui, c'est un acte de résistance qui n'a jamais été reconnu ni homologué, mais j'ai rencontré comme ça une multitude de petits actes de résistance, y compris par des enfants ou par des personnes qui jusqu'ici n'avaient jamais pensé faire de tels actes, qui n'étaient pas enrôlés dans une organisation, mais qui réagissaient comme ça de façon naturelle quand ils avaient l'occasion soit de saboter, soit de voler les Allemands, soit de donner leur position au FFI, n'hésitaient pas à le faire.
Et ils n'étaient pas en organisation. Hein.
Alors il n'y avait pas d'organisation de résistance pendant cette poche, ou très limitée, il y en avait un petit peu en particulier à Pornic, hein, il y avait une organisation de résistance. Mais on ne disposait pas d'armes ou très peu d'armes et de toute façon les états-majors avec les troupes qui encerclaient la poche avaient donné la consigne de ne pas faire de résistance armée parce qu'on aurait beaucoup trop exposé les civils. Hein, disons que l'action militaire elle était laissée aux militaires, aux FFI qui encerclaient la poche.
Oui, mais certains d'entre eux étaient vigilants, l'œil ouvert. Vous parlez d'un homme, Pierre Lécuyer, qui a tenu un journal. Il avait donc bien l'intention de raconter cette histoire.
Alors voilà, effectivement, Pierre Lécuyer, village de la Peignerie à Frossé, a tenu un journal de guerre depuis l'arrivée des Allemands en 1940. Hein? Alors, pourquoi a-t-il tenu ce journal? Ben, je pense qu'il avait deux frères prisonniers. Hein? Et c'était un tel bouleversement dans les campagnes qu'il s'est dit au jour le jour, il faut que je relate tous les événements qui se passent, peut-être pour raconter à ses deux frères prisonniers quand ils reviendraient d'Allemagne. Bon, son journal s'est interrompu au bout de la première année et il l'a repris après le 6 juin 1944, après le débarquement, puisqu'à nouveau la situation est devenue très tendue. La véritable guerre a commencé en fait à cette époque-là dans la poche.
Oui, parce que en fait, vous le dites, avant cela, bon, les fermiers, les paysans arrivaient quand même tant bien que mal à travailler, mais à partir du moment où ils ont été enfermés dans la poche, c'était plus du tout la même histoire.
Bah, avant, c'était une occupation ordinaire, comme dans le reste du pays, ni pire ni meilleur. Bon, mais là, véritablement, on a subi toutes les privations. On craignait la balle perdue. Les champs étaient imbriqués avec les No Man's Land. Les patrouilles, les escarmouches se déroulaient au milieu des travaux agricoles. Et surtout, on avait souvent, dans beaucoup de villages, dans beaucoup de fermes, les compagnies allemandes sous le même toit.
C'est à cette époque aussi que Marlène Dietrich chantait Lili Marlène. Et oui, évocation de Lili Marlène, l'époque des années 40, et ça dit forcément à ceux qui sont revenus hein, de cette époque-là, à chaque fois cet air-là dit quelque chose, hein, Michel-Alexandre Gauthier. Alors, vous avez évoqué dans votre ouvrage des personnes, hein, vous les nommez, vous avez relevé en fait les anecdotes dans leurs journaux, et notamment quelques figures porniquaises qui sont évoquées dans le journal d'un homme qui vous a particulièrement ému, je crois que c'est Pierre Doucet.
Voilà, Pierre Doucet a tenu un journal de guerre, en particulier pendant la période de l'été 44 à Pornic, hein, petit port de pêche très agité, surtout dans cette période. C'était, il y a eu un événement qui a beaucoup bouleversé les populations, la fin août 44, au moment où la poche se refermait. Une prise d'otages massive de toute la population porniquaise encerclée sur le môle et menacée d'un massacre de masse en fait. Hein. Et donc je peux peut-être préciser un peu ce qui s'est passé à cette période-là en évoquant une autre figure porniquaise qui à mon avis n'a pas été assez reconnue, c'est celle d'un photographe qui s'appelait Rostislav Loukianov, qui avait eu un destin extraordinaire.
Il n'était pas de Pornic,
lui. Il n'était pas de Pornic, il était d'origine ukrainienne, il était né à Kiev en 1893. Donc il avait eu une vie, d'abord il avait été plus jeune officier de l'armée du Tsar, ensuite il avait été dans l'armée rouge, et puis ensuite,
un aventurier.
Ensuite dans les armées blanches, et puis ensuite on l'a laissé mort, atteint du typhus, finalement on le sauve, il débarque en Grèce, et puis finalement il arrive à Marseille en 1923, il va arriver jusqu'à Nantes, il va travailler à la raffinerie Say, puis au Batignolles, il va suivre des cours du soir, apprendre le français, devenir ingénieur électricien, photographe amateur, et il va installer un petit studio à Nantes, puis à Pornic en 1937, suite au congé payé, les studios de photos commencent à pouvoir vivre, et là à Pornic, il va être rattrapé par l'histoire, puisque en 1940, ses ennemis héréditaires vont arriver, les Allemands. Il va être enfermé une première fois à la commandanture de Nantes en 1941, après l'assassinat du colonel Hotz à Nantes, oui, et l'affaire des 50 otages. Et puis là, il va être mêlé à cette affaire de la prise d'otages de Pornic. Il va rencontrer un officier russe qui s'appelle Potyraïka, qui est en garnison à Pornic à l'époque, et il va fraterniser avec lui, et c'est grâce à son entremise que cet officier russe, avec ses hommes, va faire libérer, va protéger la population de Pornic, et va la faire libérer des Allemands qui les encerclent.
Donc c'est bien l'œuvre de cet homme-là qui a permis d'en sauver plusieurs.
Ah ben, a permis de sauver toute la population porniquaise, et plus que ça, puisque ensuite il va même, avec l'aide de la résistance locale, il va favoriser la désertion, enfin le passage, la reddition de 300 hommes du colonel Potyraïka qui vont se rendre au FFI de la montagne.
Donc il y a vraiment des gens qui ont fait beaucoup. Hein,
beaucoup.
Et si on n'était pas là pour le raconter, si vous n'étiez pas là pour le raconter, peut-être tout ça aurait été oublié.
Ben, c'est connu de la population locale, mais à mon avis, c'est largement méconnu de la région. Et même à Nantes, je suis sûr que beaucoup ignorent ces événements.
En tout cas, nous, on est friands d'anecdotes. Hein, on adore ça. Et par exemple, j'aimerais bien que vous me racontiez pourquoi est-ce que vous évoquez Job Grillas, le voleur de bicyclette.
Ah ben voilà, donc c'était un jeune homme d'une famille porniquaise qui avait pris l'habitude de voler les vélos allemands chaque fois qu'il en trouvait sur le bord des trottoirs. Enfin, vélos allemands qui étaient souvent des vélos français, parce que les Allemands eux-mêmes avaient volé les vélos des Français. Et donc il les volait, il les démontait, il les découpait, il les vendait ça en pièces détachées, jusqu'au jour où il se fait prendre. Les Allemands, dans la mesure où c'est un jeune homme, vont réagir de façon assez modéré, ils vont l'employer sous surveillance dans un garage à Saint-Brévin, jusqu'au jour où on va le retrouver avec une grenade dans la poche, il va s'échapper, il va revenir chez ses parents qui vont eux-mêmes être poursuivis et qui vont devoir quitter la poche.
D'accord. Alors on attend hein, avec impatience dans la poche de Saint-Nazaire la libération. On se demande bien quand est-ce que ça va arriver avec tout ça.
Et oui, il y a surtout une très grande angoisse parce que on sait ce qui est arrivé à Royan en janvier 45, hein, les bombardements massifs sur Royan. Bon, il y a eu 1000 morts civils et 30 morts allemands. Bon, on voit aussi à la mi-avril 45, on voit passer des escadrilles de bombardiers qui vont ou qui reviennent de la poche de Royan. Et on se dit,
et
bah, les prochains...
Et s'intéresse toujours pas à la poche de Saint-Nazaire.
Non, mais surtout, on se dit, les prochains vont peut-être être pour nous. Et il y a dans les états-majors un peu des bouts de feu qui poussent à la roue pour qu'on libère la poche de Saint-Nazaire de vive force. Heureusement, De Gaulle aura la sagesse de retenir les aventuriers qui veulent,
ouais.
qui veulent bombarder la poche ou qui veulent la libérer de vive force.
Trop tôt.
Heureusement, parce que sinon, on aurait eu sans doute des dizaines de milliers de victimes.
Évocation du jour le plus long, Michel-Alexandre Gauthier, dans ce récit de Loire Atlantique et de Vendée, où vous venez nous raconter comment ont vécu les gens dans la poche de Saint-Nazaire, du côté de Pornic, enfin en Pays de Ré, hein, pour être très précis, puisque c'est votre coin, c'est là que vous êtes né, c'est là que vous avez grandi et côtoyé celles et ceux qui ont vécu cette année épouvantable. Je pense que ça a été pour eux l'année la pire de leur vie, non ?
Je pense, oui. Et puis, ils ont mis beaucoup de temps avant de pouvoir en parler. Il y avait une mémoire très, très meurtrie et très entravée par rapport à cette période. Il faut dire que, à Nantes libérée, à Noël 44, on parlait de temps en temps, par exemple, des collabos de la poche. Bon, beaucoup de témoins de cette période m'ont dit, non seulement on a été oubliés, mais on a voulu nous faire honte. Donc, j'estime qu'il était grand temps de réparer cette mémoire meurtrie, peut-être de la consoler pour certains. Et de rétablir les faits, parce que je n'ai pas du tout noté de faits de collaboration pendant cette
bien
période.
Au contraire, bien au contraire. Hein, vous évoquez des figures porniquaises, des fortes têtes, j'aimerais que vous nous racontiez.
Mais je pourrais prendre le cas de l'exemple de ce jeune Pierre Grolier, famille de fortes têtes, lui-même à l'âge de 13 ans, en 1940, il n'y a pas de résistance en France à cette époque, en 1940, sur la plage de la Noé-Veillard à Pornic, il s'empare du Moser d'un officier allemand qui est en train de bronzer sur la plage et va le jeter dans un puits. Il va ensuite couper les lignes téléphoniques, il va casser la figure à main nue à des soldats allemands et les désarmer. Son propre père va secourir des aviateurs abattus. Son frère, Robert Grolier, va être lui-même abattu par les troupes supplétives allemandes à l'été 44. Voilà, donc tous ces gens-là ont fait ces actes de résistance sans consigne particulière et non...
Et sans organisation. Il n'y avait personne derrière. Hein.
Bien sûr. Et ils n'ont jamais reçu de médaille pour ces actes d'héroïsme.
Dites-moi, Michel-Alexandre Gauthier, vous avez relevé que les femmes aussi étaient là pour résister. Il y avait aussi quelques fortes têtes parmi les
Bien
femmes.
Bien sûr, pour revenir à cette famille Loukianov, la propre femme de Rostislav Loukianov, Raymonde, a servi aussi d'agent de liaison pendant cette période. Elle a beaucoup aidé à ce que les choses se terminent sans violence lors de cette affaire de la prise d'otage de Pornic.
Vous évoquez Denise Brakmar, évoquez Madame Grolier aussi.
Bien sûr, Marguerite Grolier qui elle va participer à l'organisation d'une collecte de lait dans les campagnes autour de Pornic pour ravitailler, pour aider à surmonter la famine dans certaines familles de Pornic et donner régulièrement du lait aux enfants. Donc elle va organiser une tournée de ravitaillement en campagne, en vélo, avec des jeunes de Pornic.
Oui, ils ont souffert de la faim pendant cette période-là.
Dans les campagnes, pas trop, parce qu'il y avait des ressources alimentaires. En Pays de Ré, c'était une riche région agricole.
Oui, bien sûr.
D'où l'intérêt pour les Allemands de s'y maintenir, d'ailleurs. Mais dans les communes du littoral, oui, on a souffert parfois même de famine dans certaines familles.
Oui, on n'arrivait plus à produire. Forcément, vous le disiez au début tout à l'heure, les paysans avaient du mal à travailler.
Ils avaient du mal à travailler, mais surtout, une grande partie de leur production était réquisitionnée.
Et oui, bien sûr. Donc, eux ne pouvaient pas en profiter, évidemment. Je suppose que
le
commerce était totalement désorganisé.
Il n'y avait plus de commerce. Tout fonctionnait sur le mode de la réquisition. Et non seulement il y avait des privations alimentaires, mais on n'avait plus de quoi se chauffer, on n'avait pas de lumière, et donc on a eu froid.
Oui, il paraît que cet hiver-là a été particulièrement épouvantable.
Oui, c'était un des hivers les plus froids de la guerre.
En plus.
Avec beaucoup de neige, beaucoup de pluie.
Et quand vous avez interrogé les témoins directs de cette époque, ils l'ont relevé, ils s'en rappelaient encore?
Oui, ils ont gardé un souvenir vraiment très, d'une période très très dure, bien entendu. Il n'y avait pas non plus de soins médicaux, il n'y avait plus aucun service sanitaire qui fonctionne.
Donc c'était la débrouille et la solidarité,
voilà.
Hein, principalement, qui fonctionnaient.
Bien sûr.
Alors vous m'avez dit, vous avez à certains moments consulté les archives hein, pour retrouver certains détails.
Oui, surtout dans l'ouvrage antérieur, Une si longue occupation, où j'ai pu accéder aux archives de guerre des communes de la Poche, hein, qui n'avaient jamais été ouvertes.
Oui, c'est ce que vous
attendre
me disiez.
La période de 60 ans. Et donc, beaucoup d'émotions à ouvrir ces vieux papiers jaunis qui remontaient à la guerre et qui en fait, donnaient... Je retrouvais l'écho de ce qu'avaient vécu mes parents pendant leur jeunesse, au jour le jour, avec les billets de réquisition, avec tout l'affichage allemand sur les mairies, etc.
Et les noms des gens, etc.
Et les noms des gens qui étaient réquisitionnés, ou ceux qui échappaient à la réquisition parce que ce jour-là, ils étaient malades, etc.
Et pour retrouver des témoins directs, alors vous avez eu besoin, bien sûr, de l'aide un peu des archives, mais
oui.
Vous en connaissiez quelques-uns.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand même, de village à village, les gens savaient qui avait fait quoi, donc
on vous renvoyait de personne en personne.
Voilà, on a pu m'orienter de cette façon. Et...
Récit de l'Euratlantique et de Vendée.